Depuis 3 ans, je m'occupe d'un programme régional. Donc la région des Pays de la Loire a accepté notre programme qui s'intitule Les Nouveaux Patrimoines. Nous avons un site, ça s'appelle Néopat. Drôle de titre, hein, mais c'est donc l'abréviation de Nouveaux Patrimoines. L'idée était de s'intéresser à voir pourquoi fleurissent des tas de nouveaux patrimoines. Alors c'est vrai que j'ai eu la sensation ces derniers mois que c'est vrai qu'il y a 3 ans, ces nouveaux patrimoines, ils étaient vraiment nouveaux. Et que les choses allant très très vite, on a l'impression aujourd'hui que ça commence à être déjà rebattu. Donc il est temps que notre livre sorte. Notre livre est en fin de préparation, nous devrions l'achever dans un mois. Alors vous vous doutez bien que quand nous faisons une étude sur le patrimoine, les nouvelles formes de patrimoine, eh bien de quoi est-ce que je me charge? Du patrimoine rural, forcément. Et c'est donc ce dont je vais vous parler. Alors, l'été dernier, pour le 50e anniversaire de l'Université de Nantes, il y a eu un grand forum de la recherche. Et donc, nous avons fait un colloque international. Et là, vous voyez les différentes formes de patrimoine nouveau que peuvent être le patrimoine industriel, le patrimoine maritime. Là, on a les marais salants, une bourrine vendéenne. Donc, ça, c'est l'aspect rural, et puis les grues, ça doit être les grues de l'île de Nantes. Voilà donc pourquoi je me suis intéressée à ça, mais ça n'est pas mon domaine habituel. Là, je suis vraiment dans le monde actuel. Mais pour ne pas être tout à fait dans le monde actuel uniquement, je voudrais vous montrer, je vais organiser mon exposé de la façon suivante, vous montrer d'abord que la conception du patrimoine rural, qui est née en fait au milieu du XIXe siècle, a subi des transformations que je vous rappellerai dans un premier temps. Et ensuite, cette notion étant devenue depuis 20 ans à peu près beaucoup plus extensive, d'une perception beaucoup plus aiguë, eh bien, je m'intéresserai beaucoup plus précisément dans une deuxième partie à la pratique actuelle. Alors, bien entendu, je vous ai montré que notre programme, il est de recherche, il est dans la région des Pays de la Loire. Donc, beaucoup de mes exemples seront là. Mais j'ai quand même fait le petit effort de regarder ce qui se passait en Normandie, en Basse-Normandie. Je prendrai un ou deux exemples, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps d'approfondir ça. Dans un premier temps, je voudrais donc vous raconter un peu l'histoire du patrimoine rural que j'intitule les avatars, les différentes incarnations, les différentes présentations de ce patrimoine rural au cours du temps. D'abord, ce sont les érudits qui se sont intéressés au patrimoine rural. Vous savez qu'on date traditionnellement la sensibilité à la conservation du patrimoine de la Révolution. On le date de la Révolution, du moment où l'abbé Grégoire est intervenu et a voulu arrêter les destructions, hein, où il a inventé le mot vandalisme, hein, pour arrêter l'action elle-même. Donc c'est de ce moment-là qu'on date la protection du patrimoine. Mais bien entendu, qu'est-ce qu'a voulu protéger l'abbé Grégoire? Eh bien, ce sont les monuments. Et dans les campagnes, eh bien, dans les campagnes, vous n'avez guère d'œuvres d'architecte, puisque la ferme se transforme à chaque fois. La sensibilité, la sensibilisation au patrimoine rural, elle vient réellement sous la monarchie de Juillet. C'est Guizot qui a créé les monuments historiques, mais qui aussi ne s'est pas contenté de ça. Il a encouragé la mise en mémoire des usages traditionnels. Parce que la monarchie de Juillet, c'est le moment vraiment où l'industrie décolle, où on voit les campagnes se transformer, et là, on a l'impression que l'on va perdre des choses. Et c'est ce que l'on a appelé, puisqu'on essaie d'enregistrer les usages anciens, on a appelé ça le folklore, la naissance du folklore, mot anglais. Donc vous voyez que ça n'est pas spécifique à la France, ça existe aussi en Angleterre et ailleurs. On essaie, ce sont des érudits locaux qui essaient de transcrire des légendes, des musiques, des déroulements de fêtes. Deux exemples, d'une part celui de Hersart de la Villemarqué, qui essaie de faire un ouvrage sur la langue bretonne. Et puis, vous connaissez sans doute les romans de George Sand. Et l'un d'eux répond directement à ces directives de Guizot, c'est La Mare au Diable. Après l'histoire brève de La Mare au Diable, vous avez une sorte d'annexe qui est la description de la noce de campagne. Et là, elle décrit toutes les étapes, tous les rites de cette noce. C'est... sous prétexte que La Mare au Diable se termine par une noce, elle consigne là toutes les paroles, tous les rites. Alors voilà une première étape. Deuxième étape, c'est le bâti rural, les maisons. Est-ce que l'on s'y intéresse? Eh bien, en France, on ne s'y intéresse pas, alors que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en Europe du Nord, on s'y intéresse. Vous avez l'exemple d'Helsinki, ce sont les musées de plein air. Vous en avez dans toute l'Europe du Nord, vous en avez aussi en Allemagne. Là, le principe, c'est que ceux qui voulaient conserver ont acheté, dans les différentes régions du pays, acheté des fermes, où là, vous voyez un petit grenier. C'est un grenier en Laponie, donc dans le nord de la Finlande. Là, c'est en Carélie, dans le sud. Ils prennent donc différents exemples de bâtiments et ils les démontent et remontent pièce à pièce, scrupuleusement, dans un même parc qui, là, est aux portes d'Helsinki. Deuxième exemple, Riga, en Lettonie, où vous voyez la même chose, une ferme de l'ouest de la Lettonie, une ferme de l'est avec la chapelle. Donc, on a cette volonté de préservation en Europe du Nord très, très tôt au XIXe siècle. En France, ça n'est pas le cas et l'intérêt pour les fermes ne commence que avec Georges-Henri Rivière, qui, en 1937, met en scène la maison rurale dans l'exposition internationale de 1937, et le géographe Albert de Mangeon l'aide aussi en ce domaine. Et puis ensuite, Georges-Henri Rivière crée le musée des arts et traditions populaires, et son idée... c'est, je vous le cite, « Le musée de notre temps, s'il consent à s'affranchir des traditions désuètes, deviendra le meilleur instrument pour répandre la culture dans la jeunesse et parmi les travailleurs. J'entends la culture dans son sens le plus large, culture artistique, mais aussi culture scientifique, technique et sociale. » Voilà donc quelques idées très sommaires pour cette période qui va de 1800 à 1940. Et vous voyez que la conservation d'éléments de la vie rurale existe, mais qu'elle est surtout le fait d'amateurs locaux auxquels s'ajoutent peu à peu les géographes, les ethnologues. Et ceux-ci deviennent nombreux dans un deuxième temps, je passe au deuxième temps, qui sont les années 1960-1990. Cette période-là est une période où il y a une beaucoup plus grande sensibilité à la vie rurale traditionnelle. Alors, pourquoi replacez-vous dans les années 60 ? Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec un petit décalage, mais il y a d'abord eu la reconstruction intense. Et puis là, les années 60 sont vraiment le moment où l'agriculture et la société rurale se transforment radicalement. L'exploitation rurale, à ce moment-là, est une entreprise qui doit répondre aux mêmes critères que de productivité et que l'industrie. À cette révolution agricole s'ajoute la révolution rurale, c'est-à-dire un exode rural très intense, l'introduction des machines dans les campagnes et cette main-d'œuvre allant vers les industries urbaines. Les campagnes se vident et elles deviennent purement rurales puisqu'il n'y a quasiment plus d'artisanat. Alors, la plupart de ces urbains, nouveaux urbains, qui sont partis des villages, ils ont des liens très intenses avec leur village d'origine, au moins dans un premier temps, pendant 20 ans disons. Et ça explique qu'au cours des années 60, il y ait eu une vogue très importante de témoignages sur la vie rurale. Et là, il y a eu vraiment, je vous en cite trois, ce sont des succès de librairie. Grenadou, un paysan beauceron qui n'était pas très riche au départ, mais qui, au fil des années, a agrandi son domaine, enfin son exploitation, hein, et qui se livre à un journaliste qui transcrit ses grenadous paysans français. Autre exemple, Mémé Santerre, qui est une pauvre journalière agricole, une vieille dame qui est dans une maison de retraite, et là, un journaliste est séduit par cette vieille dame et écrit le récit de sa vie, mais là, elle était vraiment très pauvre, donc vous avez l'inverse. Et puis, vous avez le très grand succès de librairie de Pierre Jacques Elias, qui a rendu hommage à ses grands-parents bretons dans son ouvrage. Alors, voilà ce qui montre que le poids culturel des campagnes est très fort en France, malgré leur poids démographique et économique, qui est plus modeste, quoique le poids économique reste fort. Surtout, ces campagnes, elles gardent un très fort pouvoir symbolique. Et ce qui, je trouve, est le plus frappant pour illustrer ce pouvoir symbolique des campagnes, c'est la semeuse de Roty. La semeuse a été dessinée par Roty en 1895. Elle a été sur les timbres pendant très longtemps, quasiment tout le temps, depuis cette époque-là. Donc là, je vous ai mis un vieux timbre dont je ne sais plus de quand il date, mais vous l'avez tous vu. Et surtout, encore plus frappant, cette semeuse, elle a été sur les pièces de monnaie. Pendant longtemps, elle a disparu pendant l'entre-deux-guerres. En 1958, lors du nouveau franc, elle est réapparue sur les pièces de monnaie. Et si vous regardez encore aujourd'hui vos pièces en euros, eh bien, elle a disparu de la pièce de 1 euro, mais vous avez tous remarqué qu'elle était sur les pièces de 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes. C'est vraiment le patrimoine rural prend beaucoup d'importance, et je crois que c'est pour cette raison-là qu'à la fin des années 70, la notion de patrimoine, au moment où la notion de patrimoine explose, eh bien, le patrimoine rural prend une place importante. Alors, qu'est-ce qui va permettre de développer le patrimoine rural? C'est le moment où ce terme de patrimoine et de patrimoine rural est inventé, et comme à ce moment-là, le rôle de l'État est important, eh bien, je vous cite les principales choses. Le premier pas était la création de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France par André Malraux en 1964. Alors, on n'a pas fait une grosse place à l'inventaire rural, mais quand même, on a commencé. Puis, en 1977, la direction du patrimoine au ministère de la Culture. Donc, vous voyez, le terme est institutionnalisé. Et les pouvoirs publics agissent à partir de ce moment dans deux directions. La protection des paysages, d'un côté, et de l'autre, la protection de l'architecture vernaculaire. Donc, paysages et architecture. Alors, les paysages, eh bien, on se sent responsable des menaces qui pèsent sur le paysage, soit parce qu'on a peur des pollutions, on a peur de l'épuisement des ressources naturelles, ou bien on s'intéresse aussi au paysage parce que on y voit le lieu de l'identité perdue ou le beau thème pour des publicités d'évasion. Cette idée de protection du paysage et de l'environnement s'amplifie après la conférence de Stockholm en 1972 et elle est introduite dans le droit européen par l'acte unique. Si vous relisez l'acte unique de 1982, eh bien, il y a une clause de sauvegarde, puis il y a la Convention européenne du paysage en l'an 2000. Cette progression au niveau international est jalonnée en France par le dernier alinéa que je vous affiche là, par la création des parcs naturels régionaux qui sont là pour défendre le patrimoine naturel des zones habitées. Alors, soit le patrimoine des régions qui sont menacées par une urbanisation galopante, soit celles qui, au contraire, sont menacées par une dépopulation très importante, Kiva, dont nous allons reparler, qui fait un rapport en 1994, dit « Il est artificiel de séparer le bâti du paysage car il en fait partie, le structure, l'anime, et le continuum édifice-village-site ne doit pas être brisé sous peine de le voir perdre sa cohérence en même temps que son authenticité. » Donc on a le souci de sauvegarder à la fois les bâtiments et les paysages. Parfois, et c'est là où est le problème, dont nous reparlerons, c'est parfois au prix d'un refus d'une évolution constante des méthodes agricoles. Et je pourrais prendre l'exemple qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est celui de la défense du bocage. Aujourd'hui, on veut que tous les paysages, les beaux paysages, soient en bocage, alors que les historiens savent bien que le bocage est souvent né au XIXe siècle avec le développement de l'élevage. Ou plutôt, hein, puisque dans la Gâtine-Poitevine, par exemple, il est né au Moyen-Âge, mais tout ça pour des raisons de système de culture à cause de l'élevage. Bon, là, on voudrait que partout, il y ait du bocage. La sensibilisation au maintien des bâtiments ruraux anciens a incité l'État à élargir la protection jusqu'au petit patrimoine rural, c'est ce que je vous ai mis là, PRNP, petit... Non, patrimoine rural non protégé. Il n'y a pas de petit dans l'appellation. C'est patrimoine rural non protégé. C'est... Alors, qu'est-ce que c'est? Les chapelles, les croix de chemin, les puits, les lavoirs, les moulins. À partir du moment où ils ont tous perdu leur fonction d'origine, alors ça vous étonne peut-être que je mette dans le même sac les lavoirs et les croix, mais c'est vrai que à partir des années 80, ils ont perdu leur fonction d'origine. De même, les moulins. Et à ce moment-là, eh bien, ils sont plus vulnérables parce qu'on ne les entretient pas, mais en même temps, on peut les patrimonialiser, c'est-à-dire que toute la communauté peut faire en sorte qu'elles soient leurs. Et les pouvoirs publics ont renforcé leur action sur la qualité de l'architecture et sur celle des paysages, et pour cela, ils ont créé les CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Voilà des structures, vous voyez, alors, on a aussi encouragé les musées donc, avec l'Association française des musées d'agriculture. Vous voyez que jusque-là, dans ces années-là, eh bien, il y a un rôle prépondérant de l'État qui essaie de protéger tout un tas d'aspects matériels du cadre de la vie dans les campagnes. Alors, à partir de 1990, c'est donc la dernière phase, se met en place une politique de valorisation du patrimoine et développement local. Les années 90 sont vraiment un tournant parce que ça marque l'irruption de la notion de valorisation du patrimoine. Jusqu'ici, ce qu'on voulait, c'était conserver ce qui existait. Or là, vous le voyez, ce qu'on veut, c'est conserver, bien sûr, mais aussi mettre en valeur dans un but de développement local. Et c'est ce qui vous explique le titre que j'avais donné à l'intervention. Est-ce que c'est un instrument de développement économique? Pour vous marquer un peu la chronologie, dès l'année 1992, les élèves de l'ENA ont eu à réfléchir sur l'aménagement de l'espace rural. Et pour réfléchir à cet aménagement de l'espace rural, eh bien, ils n'ont pas oublié de consacrer une section de leur étude au patrimoine rural. En même temps, le ministre de la Culture a demandé à l'ethnologue Isaac Kiva un rapport. Vous voyez que les deux sont bien concomitants et ce rapport que je vous avais cité dans la bibliographie. Évidemment, ce rapport a beaucoup d'audience parce qu'il est demandé par le ministère, rendu public, et puis parce que son auteur est très réputé et il rend évident ce changement de cap. Il réfléchit aux moyens de développer la protection, la mise en valeur du patrimoine rural. Et je vous cite d'abord sa définition du patrimoine rural. Pour lui, c'est l'architecture, les paysages, les produits du terroir, les techniques, les outils, le savoir-faire. Donc, vous avez à la fois un patrimoine matériel et immatériel. Et je vous lis la conclusion de son rapport. Les mesures proposées veulent favoriser un profond remaniement de nos conceptions du patrimoine rural. On a vu en effet qu'elles oscillaient entre une protection qui, isolant arbitrairement des objets, risquait de figer irrémédiablement la dynamique de ce patrimoine, et une conception trop instrumentale qui considère le patrimoine rural comme un outil de développement local. Au risque d'en oublier l'unité pour ne prendre en compte que les éléments susceptibles d'être valorisés dans le cadre d'opérations touristiques ou médiatiques. Les mesures proposées doivent d'abord être le moyen d'un profond changement dans les mentalités des responsables et du public. Je l'ai dit plus haut, le patrimoine culturel doit jouer un rôle majeur dans l'aménagement culturel du territoire. Alors, vous voyez, ce que soulignait Kiva à cette époque-là, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est encore au cœur de la réflexion aujourd'hui, c'est-à-dire trouver un équilibre et éviter les deux écueils qui sont, d'un côté, on conserve tout et on fige dans un état antérieur, très antérieur, ou bien, deuxièmement, prendre ce patrimoine uniquement comme élément de développement. Et pour vous faire comprendre ça, je vais vous raconter. L'an dernier, nous sommes allés visiter Turcan, qui est au bord de la Loire, près de Saumur. Et à Turcan, il y a des troglodytes. Vous savez, dans les falaises de craie, il y a les vignerons avaient des caves troglodytes. Et le maire, qui est un homme très dynamique et qui voulait faire revivre sa commune, s'est heurté aux vignerons, bien sûr. Il a voulu, parce que ces caves de vignerons, elles servaient essentiellement de dépotoir. Donc, il a voulu remettre ça au goût du jour. Il a installé des artisans d'art dans les caves troglodytes. Ce qui, en faisant amener les artisans d'art et en faisant amener des touristes, eh bien, lui a permis d'avoir de l'argent, de faire revivre, d'attirer des gens, c'était son but, hein, au lieu que Turcan se dépeuple. Il a recommencé à se peupler parce que le cadre extérieur a changé. Et il a réussi aussi à remettre en état l'église. Mais alors, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais bon, il est très dynamique, ce maire, formidable, il a redonné dynamisme à son village. Mais le patrimoine là-dedans, le patrimoine, pour lui, ça a été un instrument. Son but, ce n'était pas de conserver. Non, le patrimoine, c'est au goût du jour, ça attire les gens, c'est bien, on utilise le patrimoine pour faire venir les gens. Et donc, vous voyez comment on arrive à une déviation. Donc, il faut arriver à rester entre Carib et Silla. Pour faire avancer ces démarches, eh bien, l'État a mis au point des incitations fiscales, des fonds d'aide, des labels, je vais y revenir. Il a créé en particulier la Fondation du patrimoine, qui a pour but de sensibiliser les Français aux nécessaires efforts communs. Et quand je vous parle de cette Fondation du patrimoine, en vous disant qu'elle sensibilise les Français aux nécessaires efforts communs, vous voyez que là, on passe à un renouvellement des conceptions sur le patrimoine rural. C'est-à-dire que ça n'est plus seulement l'État qui doit intervenir pour conserver. Autrement dit, l'État qui doit financer tout ça. C'est que maintenant, il faut que ça soit rentable et surtout que l'on voit pourquoi on conserve. Autrement dit, les acteurs vont changer. Il faut que ce soit la population aussi qui veuille bien mettre la main à la pâte, au travail, et éventuellement à la poche, pour financer. Et il faut que, en fait, on voit ce qui correspond à la demande sociale ou pas. Mais dès, je vous parlais de ce rapport des élèves de l'ENA en 92, eh bien, ils l'avaient compris plus tôt, puisque leur conclusion, c'était « L'État doit s'affirmer dans un rôle d'impulsion, d'orientation, d'encadrement scientifique, plus que de strict agent de police administrative. » À mains égards, les spécificités du patrimoine rural, son caractère diffus, son contenu identitaire, conduisent à confier une responsabilité essentielle aux populations et aux collectivités rurales. Donc vous voyez pourquoi ce tournant de 1990 est fondamental, c'est parce que on essaie d'insister sur le patrimoine rural, le voir dans une vision élargie, et puis surtout de penser qu'il faut que les gens participent. Alors, si vous voulez, maintenant que j'ai fait ce tour d'horizon de l'histoire de la notion de patrimoine rural, je voudrais m'arrêter en guise de transition sur l'ouvrage qui a été publié par le ministère de l'Agriculture en l'an 2000 qui s'appelait « Patrimoine rural ». Alors d'abord, c'est l'idée de valoriser le patrimoine, hein, préserver les paysages agraires, organiser l'espace, donc essayer de faire en sorte que les paysages soient beaux, valoriser le bâti. Ça, c'était un souci plus ancien. Alors, bien sûr, avec les châteaux, abbayes, sites archéologiques, etc., les fermes, mais pas seulement les fermes, les granges, les pigeonniers, les bâtiments d'élevage. Éventuellement, on y ajoute les caves, les fabriques, et puis tout ce qui est bâtiments religieux, hein, avec les retables, etc. Bon. Ensuite, alors, l'espace privé, c'est plutôt ce qui vient d'être dit. Donc, déjà, tout ce qui est les grottes, les glacières, par exemple, ou les petites industries que l'on retrouve ici. Et puis, valoriser l'agriculture. Alors, c'est là où on passe à des concepts qui sont à demi patrimoine matériel et patrimoine immatériel. Valoriser l'agriculture, c'est... Là, on vous dit relancer un produit du terroir. Alors, l'un des exemples, c'est le fin gras du Mézenc. Quand vous allez là-bas, c'est à peu près aux sources de la Loire. Hein, on a recommencé à faire le bœuf gras, donc un bœuf bien engraissé, et on fait toute une fête autour de ce bœuf avant de l'abattre. Hein. Le ministère préconise l'ouverture de la ferme au public. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Et puis, sauvegarder les races. Les races, ici, c'est un porc, mais vous avez essayé de sauvegarder les races et non seulement les races animales, mais aussi les anciens légumes. Valoriser tous les produits du terroir. Alors là, pour les pays de la Loire, nous avons le sel de Guérande, le sel de Noirmoutier. Hein, donc, les marais salants ont été valorisés. Mais vous avez tout ce qui est aussi l'alimentation traditionnelle. Hein. Donc vous voyez, je vais finir par me rattacher au thème global du séminaire, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, après tout ça, il y a aussi les savoir-faire. Et ça, les savoir-faire, on insiste de plus en plus dessus. Voilà ce que préconisait le ministère en l'an 2000. Qu'en est-il advenu ? Donc, on essaie aujourd'hui de valoriser le patrimoine pour développer le tourisme et l'aménagement du territoire. La fin des années 90 coïncide avec deux phénomènes. D'une part, la restauration des bâtiments anciens dans les campagnes et d'autre, l'installation de citadins dans les villages. Alors, quel est le lien entre les deux ? Eh bien, ça n'est pas si simple, ça n'est pas univoque. C'est vrai que très souvent, ce sont les citadins qui rénovent le bâti rural, mais on peut aussi dire que si les citadins vont s'installer dans les campagnes, c'est aussi parce que les campagnes sont plus attractives, qu'elles ont déjà été restaurées. Hein. Donc, les deux vont de pair. Et ces néo-ruraux veulent que le village et ses alentours ressemblent à un cadre rêvé, souvent, cadre rêvé d'une campagne idyllique. Hein. Il faut qu'il y ait des petits oiseaux, des coqs, mais les coqs ne chantent pas le matin, des clochers, mais les cloches ne sonnent pas le matin avant qu'ils soient réveillés, etc. Bon. Alors voilà une première raison, un premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que les agriculteurs, qui depuis les années 60 ont eu un revenu qui s'est amélioré, à partir des années 90, ont un revenu en baisse. Et s'ils veulent s'en sortir, eh bien, il faut qu'ils trouvent d'autres revenus. Et donc, il leur faut trouver des ressources complémentaires par l'offre d'hébergement, d'accueil à la ferme. Et j'avais relevé le label des chambres d'agriculture, celui « Bienvenue à la ferme ». Dans les pays de la Loire, il y en avait 8 en moyenne, mais alors, en Calvados, vous êtes encore beaucoup plus fort, puisque 62 chambres d'hôtes. Donc ça oblige les agriculteurs à rendre leur lieu d'accueil très attractif. Alors, justement, on a amélioré les fermes traditionnelles et on s'y est beaucoup intéressé. Donc, on s'intéresse au bâti et pour vous montrer cela, un peu de bibliographie, deux ouvrages. L'un que j'ai cité tout à l'heure, celui de Hervé Cividino sur les architectures agricoles aujourd'hui. Et puis, l'autre qui est le résultat d'études faites par le domaine de la Garenne-les-Meaux en Loire-Atlantique, sur les créations architecturales du XIXe siècle et qui montrent tous les beaux plans qui ont été faits, des étables, des pigeonniers, des granges, des moulins, etc. Souvent au XIXe siècle, alors on le savait pour l'Angleterre a eu de superbes fermes faites par les grands seigneurs avec des architectes hein, et c'était une agriculture très rationnelle avec des très beaux bâtiments. Et en France, on ne connaissait pas, donc je suis très contente de voir que maintenant, on le connaît. On a eu la même chose, de très beaux bâtiments, souvent, alors très beaux, pas exagéré, hein, mais bien conçus, rationnellement, et surtout bien assez jolis. Avec des... Donc on a aujourd'hui essayé de restaurer tout ça. Le but essentiel de tout cela, c'est d'attirer... d'attirer le touriste, donc il faut que le cadre soit léché. Là, je vous ai donné deux exemples. Un lavoir, alors ça, vous en trouvez partout, des lavoirs hein, qui sont restaurés. Et puis, un bâtiment agricole très particulier qui est ce qu'on appelle les loges d'Anjou. Ce sont des, justement, c'est de la bruyère. Le toit très grand est en bruyère. Il en reste très peu, mais il y en a quelques-unes aux alentours d'Angers. Autre exemple, les églises rurales qu'on essaie de conserver. Celle-ci est une église, j'ai découvert le terme, église à balai. Ces choses-là qu'on appelle des balais et qui servaient à se retrouver pour bavarder avant ou après la messe. Et par exemple en Sarthe, vous avez plus de 500 fours à chanvre dont certains sont restaurés. Voilà un four à chanvre. Vous avez aussi des fours à chaux. Bon. Pour attirer le touriste, on met aussi le patrimoine un peu à différentes sauces. Par exemple, les bords de la Mayenne. Le département de la Mayenne a reconstitué le chemin de halage. Le chemin de halage qui doit servir à attirer les gens pour des promenades à pied, promenades en vélo, promenades à cheval. Hein. Et sur le parcours, on recense et on signale toutes les richesses patrimoniales. Donc vous voyez, ça s'inscrit dans la dynamique patrimoniale. D'ailleurs, le Maine-et-Loire veut continuer le cours de la Mayenne plus au sud. Les parcs naturels régionaux ont aussi cette vocation de mise en valeur globale des régions, je vous l'ai dit. Alors il y a en particulier le parc Normandie-Maine, on peut citer aussi la Brière par exemple, où le patrimoine naturel est protégé, de même que le patrimoine culturel, tout ça pour travailler au développement économique et social. Alors, non seulement il faut améliorer le cadre, mais il y a aussi, pour attirer le touriste, il y a tous les musées d'agriculture. Alors là, je ne suis pas du tout sûre que ce soit exhaustif, mais j'ai fait une carte des musées de la vie rurale en Pays de la Loire, et vous voyez que en gros carré, vous avez les musées publics. Ce sont souvent des écomusées. En rond, les musées privés. En triangle, les associations. Et vous voyez qu'en Loire-Atlantique, il y a énormément d'associations. Il faut dire aussi qu'il y a une grande inégalité. La Loire-Atlantique a un très grand nombre de musées. Les coopératives sont moins nombreuses, c'est uniquement celle des Marais Salants. Une fois que l'on a conservé tout cela pour avoir un beau cadre et attirer le tourisme, on essaie aussi de faire revivre les villages. Et le patrimoine est un excellent moyen de faire revivre les villages. Souvent, il n'y avait plus grand monde dans le village, et puis ils se repeuplent de néo-ruraux, qui souvent n'ont pas de racines locales. Alors, quel est le meilleur ciment pour créer des liens entre ces gens? La défense ou la conservation du patrimoine local. Et vous avez un très grand nombre d'associations qui se sont créées pour mettre en valeur le patrimoine. Alors, ces associations, elles recensent le patrimoine, elles le transmettent. Le but, c'est souvent de mêler justement plusieurs générations, les anciens, disent-ils, et les jeunes. Bon. Je prends quelques exemples. Le sport. Le sport, il attire toutes les classes d'âge et c'est accessible à tout le monde. Alors, si vous êtes curieux, vous irez voir le championnat de France du lancer de palet en fonte sur plaque de plomb. C'est la spécificité de la Vendée. Plus connue peut-être, c'est la boule de fort que je vous ai mis à droite. La boule de fort, vous savez, ça se lance sur il y a des grandes salles pour ça. C'est la spécificité de l'Anjou. Bon, donc, voilà des fédérations très actives. Autre activité, je vous ai cité la Gouline Sartoise. C'est un groupe folklorique. Alors, d'une part, ils gardent les contes en patois chez nous. Mais il y a aussi les danses. Et puis, surtout, ça, je trouve que c'est typique, cette affiche me plaît beaucoup parce qu'elle résume tout à fait ce que l'on fait avec ce que l'on veut faire avec ces fêtes, fêtes de la moisson. Qu'est-ce que vous voyez? La vapeur arrive à Valennes. Donc, là, c'était la nouveauté de cette année. L'idée, c'est de montrer l'aspect agriculture. Agriculture, défilé des moissonneux, battage à l'ancienne, manège aérien, faucheuse-lieu, javeleuse, labour aux chevaux, le labour aux chevaux étant là. Donc vous voyez, vous avez une démonstration de labour, de moisson, etc. Mais à côté de cela, qui est vraiment rural, vous avez la musique, les cors de chasse. Vous avez la danse, alors le bal, c'est inséparable, hein, il faut qu'il y ait un bal. Et puis surtout, vous avez tout ce qui est alimentation. Alimentation avec le repas campagnard, le lendemain le repas des moissons. Hein. Donc on mêle ainsi toutes ces activités du monde rural. Et la gastronomie est quand même quelque chose d'important avec les dégustations de spécialités locales. Vous voyez que là se mêlent beaucoup d'aspects matériel et surtout immatériel. J'ajouterais même, pour aller plus loin, jusqu'où va l'immatériel, eh bien, en Vendée, le Conseil général aide un chercheur en ethnologie musicale à monter un dossier pour faire reconnaître par l'UNESCO un patrimoine matériel immatériel très particulier qui est le dariolage. Le dariolage, c'est ce que Georges Sand appelait dans sa région le briolage, c'est-à-dire comment l'homme qui conduit les chevaux pour le labour chante pour se faire comprendre par ses chevaux. Et c'est ce chant du laboureur qu'on essaie de préserver. Il faut préserver les rares qui savent encore le faire. Donc, on essaie de préserver les savoir-faire. Donc, je viens d'évoquer la gastronomie, mais pensez à la poterie, la verrerie, la vannerie, la fabrication de sabots, etc. Les journées du patrimoine de pays qui a lieu au printemps chaque année depuis pas mal d'années. Et vous voyez le thème de 2012, cette année, c'était cuisine, terroir, savoir-faire. Donc, la gastronomie était au premier plan. Alors, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'actuellement, on essaie de conserver le patrimoine, surtout de l'utiliser pour attirer des gens dans les campagnes, que le moteur, eh bien, certainement l'État a été moteur au départ, mais aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que ce soit le développement économique et social des campagnes qui soit privilégié, et il faut que les acteurs soient les acteurs locaux, des associations, des particuliers, il faut que cela vienne d'eux. Donc on n'est plus du tout à la conception de la descente de la culture vers les masses, comme disait Agulon, descente de la politique vers les masses. Ce temps-là est passé, ça a été difficile pour l'État de se désengager, mais ce sont maintenant les habitants qui prennent en main les choses. Et je pense que ça prend beaucoup, à la fois en Normandie et en région des Pays de la Loire. Je vous cite la Fédération des patrimoines qui affiche sur son site, Avec plus de 1500 réalisations publiques et privées, 116 millions d'euros de travaux et près de 6 millions de subventions et de dons collectés pour contribuer au financement de ces opérations à la fin 2011, la région des Pays de la Loire compte parmi les délégations les plus dynamiques de la Fondation du patrimoine. Donc il y a énormément de dons. Vous ajoutez à cela aussi qu'il y a l'échelon européen qui est très important, puisque vous avez les aides des programmes FEDER, LEADER, qui contribuent à cette mise en valeur du patrimoine. Alors, pour conclure ce panorama du patrimoine rural, je voudrais insister sur deux idées. La première, c'est que cette énumération d'actions amène quand même à s'interroger sur la notion même de patrimoine rural. On a vraiment l'impression d'un objet en train de se constituer. Il y a même certains qui se disent qu'on va patrimonialiser les silos, que les silos sont à conserver comme élément du patrimoine. Bon. En tout cas, le patrimoine est un élément clé de l'aménagement culturel du territoire. Mais je me demande, parfois, alors je vais être peut-être un peu subversive, je me demande si globalement cette notion de patrimoine rural n'est pas la même chose, une nouvelle appellation d'une politique d'aménagement du territoire, aussi bien économique que culturelle. Ça se ressemble beaucoup, mais il faut mettre les mots de patrimoine comme il faut mettre le développement durable. Toutes les énergies se sont mobilisées, ça c'est la deuxième idée très importante, collectivités locales, initiatives privées et surtout beaucoup d'associations qui ont pris le relais de l'État. Mais vous avez vu qu'il y avait des écueils et qu'il était souvent difficile de concilier la conservation dans un État ancien et le besoin des paysans de s'adapter à des techniques qui sont en perpétuelle évolution. Voilà, je vous remercie de votre attention.